Radio
Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19? Nous en parlons avec Monsieur Carlos Kalambay, directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC FPMSA. Il est avec nous dans ce studio, Monsieur Carlos Kalambay. Bonjour.
Bonjour Marcel.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans la deuxième partie de l'émission de ce magazine, donc au Capi Service de ce jour, on va parler de que faut-il faire pour avoir de l'eau potable dans une borne fontaine. Voilà le menu pour le magazine au Capi Service de ce jour. Polydor Basunga est à la mise en nom de Tati Mapoko, réalise et coordonne ce numéro de magazine au Capi Service de ce jour. La présentation, c'est Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Bienvenue à toutes et à tous.
Radio Okapi.
Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Okapi. Comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, la pandémie de Covid-19 n'a pas également épargné le secteur de l'économie en RDC. Il y a un ralentissement des activités dans le secteur de l'économie en RDC. Pour faire face à la crise socio-économique en cette période de Covid-19, répondre aux besoins des institutions financières, partenaires des institutions financières, de banques, de coopératives, les fonds de promotion pour l'inclusion financière en RDC a adapté ses services financiers à la conjoncture. Comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19? Nous en parlons, je le dis, avec le directeur général Carlos Kalambay. Je rappelle le numéro de contact. Si vous êtes intéressé ou voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 099 706 63 94. Vous pouvez également nous appeler au 081 890 63 94 ou réagir à l'adresse service@radiokapi.net et également la page Facebook Okapi Service. Nous avons déjà beaucoup de réactions par rapport à ces sujets. Nous disons déjà merci à toutes ces personnes qui ont réagi sur la page Facebook au cours de cette première partie de l'émission. On va découvrir certaines de ces réactions. Voilà. Comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19? DG Carlos Kalambay, avant de parler de ce que vous avez mis en place pour faciliter les PME, les coopératives ou autres microfinances à faire face à cette période de conjoncture difficile due à la Covid-19, on peut d'abord avoir une idée sur l'impact réel de la Covid-19 sur ces secteurs.
Merci beaucoup Marcel pour ce temps et cette opportunité.
Oui.
Je dirais que d'entrée des jeux, je dirais que l'impact a été non négligeable d'une part, mais d'autre part, lorsque nous voyons les pronostics catastrophiques qui ont été faits, on se dit que il y a une forte résilience de tous les côtés.
Oui.
Il faut le dire au niveau des institutions financières, mais on voit aussi au niveau des micro, petites et moyennes entreprises. On s'attendait à pire que ça. Vous vous rappellerez, en mars 2020, jusque juillet, août 2020, la situation a quand même été assez dure pour l'économie congolaise, ayant des impacts non négligeables au niveau du produit intérieur brut, où pratiquement durant l'année 2020, on a eu une très faible croissance selon la Banque centrale, de 0,8%, contre une croissance qui a été en 2019 de près de 4,4%. Et si nous devons reculer en 2014, on avait presque une croissance de 10%. Évidemment, selon le Fonds monétaire international, nous avons connu une récession de moins 2,2%. Et cela s'est reflété aussi par un taux d'inflation très élevé. En janvier 2020, on a eu un taux d'inflation de 5,5 qui a pratiquement atteint le pic au mois d'août à 20%. Et c'est un peu ralenti vers fin de l'année 2020, au mois de décembre. Et depuis janvier, on sent quand même qu'il y a une bonne stabilisation. Et chapeau pour les mesures qui ont été prises très tôt, et au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la Banque centrale, où la réactivité n'a pas attendu dès les débuts de la pandémie en 2020. La santé avant tout.
Oui.
Et le lockdown a fait que les plus touchés ont été les PME. On a fermé les frontières.
Le petit et moyenne entreprise.
Les petites et moyennes entreprises. Oui. Micro, petites et moyennes entreprises. Oui. On a fermé les frontières. On a isolé la capitale, Kinshasa, des autres provinces. Et vous le savez que les échanges entre les provinces environnantes sont assez considérables. Quand vous prenez le Bas-Congo, vous prenez la frontière avec l'Angola. Vous prenez la partie ouest qui va jusqu'au centre pratiquement, et les échanges avec l'est ont fait que la plupart des PME se sont retrouvés en cessation d'activité, mais aussi et surtout les services, les funérariums, on a les restaurants et autres hôtels. On n'a pas pratiquement pas eu des touristes dans le pays comme d'habitude. Or, on sait que l'économie est liée. La plupart des micro, petites et moyennes entreprises appuient leurs activités via des appuis financiers, pour dire des crédits. Et ces crédits proviennent des institutions financières. Et il y a des engagements de remboursement, il y a des échéanciers qui sont soit mensuels, soit trimestriels, soit semestriels, pour certains qui sont annuels. Et contre toute attente, la cessation d'activité a fait qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui sont restés en suspens, ayant d'une part un impact sur les micro, petites et moyennes entreprises dans l'activité, mais aussi ayant un impact sur le social parce que c'est la source de revenus. Avec un taux de chômage qui frôle pratiquement les 60% dans RDC, on se dit que le gros de l'activité, ce sont des initiatives privées.
Oui.
On peut le voir dans la rue. Et lorsque ils n'exercent pas, on peut comprendre la crise sociale qu'il y a eu et les difficultés qu'ont traversé ces institutions, mais qui, d'autre part, au-delà de cette difficulté sociale à faire face aux dépenses courantes de leur famille, avaient un engagement avec l'institution financière. Ils devaient rembourser cet argent. Et cela se repercute aussi au niveau de l'institution financière.
Exactement, oui, ça c'est,
parce
c'est
que
évident, c'est clair, oui.
On parle de l'intermédiation financière.
Oui.
Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, on collecte de l'argent auprès de ceux qui en ont un peu plus, l'épargne, et ce surplus d'épargne, on le donne en crédit. Ce qui fait que lorsque on ne rembourse pas l'institution totalement, il se fait qu'il y a ce que nous appelons des retards de paiement ou des arriérés. Ils doivent provisionner. C'est-à-dire que même au niveau des institutions, vous avez une répercussion qui, in fine, va se répercuter au niveau de l'économie de façon générale parce qu'il y a ralentissement. Alors, l'impact y a été. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées au niveau de la FEC, au niveau du FPM aussi, véhicule d'assistance technique ASBEL. On a aussi Elan qui a mené des impacts où on a réellement vu que la plupart des PME ont dû baisser considérablement leur chiffre d'affaires et certaines ont carrément dû renvoyer une bonne partie du personnel et beaucoup ont été dans l'incapacité de pouvoir respecter leurs engagements envers les institutions financières. Mais je dirais que la résilience a été au rendez-vous.
Tout à fait, exactement. C'est de ça qu'on va parler. Ouais. Pour ceux qui découvrent le fonds de promotion, le fonds pour l'inclusion financière en RDC, alors dites-nous d'abord généralement comment vous travaillez et comment vous avez fait pour vous adapter, hein, par rapport à la COVID-19 pour faire en sorte quand même que les fonds puissent continuer à rendre service.
Exact. Le FPM, le fonds pour l'inclusion financière, a pour objectif principal la réduction de la pauvreté.
Oui.
Et cette réduction de la pauvreté, nous la voulons en construisant ou en appuyant la construction d'un noyau d'institutions financières assez solides qui pourront apporter des services financiers. Parce que sortir de la pauvreté, c'est avoir des initiatives. Et ces initiatives et projets doivent se concrétiser. Et leur concrétisation exige du financement.
Donc ces financements, vous ne les faites pas directement des privés, vous travaillez par le biais
des institutions financières.
Exactement.
Alors notre souhait est d'encourager le secteur financier à développer des produits et avoir suffisamment de capitaux à risque,
oui,
leur permettant d'appuyer cette frange de la population qui reste encore très peu servie par le secteur financier. Et on connaît tout ce qu'il y a derrière, hein. Cette capacité de lever de fonds qui nécessite une certaine ingénierie financière et commerciale qui n'est pas toujours au rendez-vous. Comme le risque est élevé, il y a cette exigence des garanties, soit financières, soit matérielles, que ces micro-petites et moyennes entreprises n'ont toujours pas. Alors, ce que le FPM fait, c'est pouvoir accompagner les institutions à développer les mécanismes de risque appropriés pour pouvoir tout justement servir cette partie de la population, en fait, qui reste une puissance économique, ok, pris dans son ensemble, mais qui n'a pas toujours des interlocuteurs idéaux,
oui,
pour répondre à leurs réels besoins, mais aussi pour les comprendre dans leur mode de fonctionnement en fonction de notre environnement économique, social et politique.
Alors, quelle a été la particularité de votre FPM pour s'adapter à cette conjoncture vis-à-vis des institutions de microfinance?
Bon, je dirais que au niveau du FPM, je soulignerais que nous avons deux institutions,
oui,
autonomes et séparées. Il y a le FPM ASBL qui s'occupe de la partie assistance technique, c'est-à-dire renforcement des capacités, accompagnement des institutions financières dans l'objectif de rendre un service de qualité aux micro, petites et moyennes entreprises. Et moi, je gère le FPM SA qui est une société financière qui a pour objectif tout justement d'apporter le financement nécessaire pour l'appui des micro, petites et moyennes entreprises. Alors, ce que nous avons fait, c'était observer, surtout par rapport aux institutions de microfinance qu'on appelle les IMF, les coopératives d'épargne et de crédit qu'on appelle les COPEC,
oui,
comment leur apporter cet appui, parce que lorsqu'il n'y a pas remboursement de crédit, ils n'ont pas suffisamment de capitaux, ça peut arriver, pour continuer à faire le crédit. Nous nous sommes retrouvés dans un cercle vicieux, c'est-à-dire celui qui rembourse son prêt donne suffisamment de la liquidité à l'institution financière pour refinancer les autres. Or, on est arrivé à un point où celui qui devrait rembourser ne peut pas le faire parce qu'il y a blocage.
Oui.
Sur le plan économique, c'est un cas de force majeure. Et pour qu'il puisse relancer son activité, il a aussi besoin de capitaux parce que vous avez fermé pendant 6 mois. C'est d'ailleurs le fonds de roulement est parti et il faut relancer. Et quand vous allez vers votre banquier, il vous regarde, il dit « mais tu me dois, tu me rembourses ».
Oui, c'est ça.
Alors,
c'est évident.
La réflexion a été comment, oui, vous casser ça. C'est-à-dire,
oui,
d'une part, appuyer les institutions à pouvoir faire du refinancement.
Oui.
Et d'autre part, voir comment mettre en place des mécanismes de gestion de risque. C'est-à-dire alléger tout justement cette partie de risque de crédit qu'on appelle, qui était restée très ouvert. Nous avons développé des produits très rapides, c'est-à-dire qu'on a mis en place un setup, une sorte de guichet de liquidité facile où les institutions de microfinance ou COPEC pouvaient avoir cette possibilité de nous aborder en cas de souci, pour voir comment est-ce qu'on peut très rapidement les appuyer dans cette circonstance. Mais on a quand même vu aussi des partenaires au développement avec lesquels nous continuons à travailler pour lever des fonds nécessaires pouvant permettre d'atténuer le risque de financement au niveau des institutions financières. C'est-à-dire, on est resté dans le secteur, on est resté proche, et notre avantage est que, fonctionnant localement, nous comprenons et nous adaptons aussi notre accompagnement en fonction des réalités du marché.
Parce qu'il fallait bien le faire, il fallait bien le faire, autrement ça serait la catastrophe pour toutes ces institutions.
Absolument, absolument. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore le fruit, oui. Mais je pense que des pourparlers sont très avancés, oui. Par rapport à la mise en place des fonds d'urgence, mais aussi d'autre part, pousser les partenaires à mettre en place des fonds de garantie, parce que ce qui nous manque crucialement, c'est la partie assurance et la partie garantie. Il n'y a pas des fonds qui peuvent garantir aux institutions financières un remboursement en cas de défaillance, par exemple dans ces cas de force majeure.
DG Carlos Colombay, on revient à vous. Le temps pour nous de nous tourner vers les auditeurs qui sont déjà en ligne. Il y a Daniel qui nous appelle de Boutembo, Tamboué qui est à Béni, Gilbert qui est à Mbandaka. Si vous venez de vous rejoindre à nous sur la fréquence de la paix, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19 avec notre invité, Carlos Colombay, directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, FPMSA. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer les 081-890-6394 ou encore les 099-706-6394.
Radio Okapi. Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-6394. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Okapi. Daniel, vous êtes en ligne, vous nous appelez à pas de Boutembo, vous appelez de Kisangani, c'est bien ça Daniel?
Oui, c'est Daniel depuis Kisangani.
Voilà, on vous écoute, Daniel. Allez-y, votre question.
Oui, c'est Daniel Ongembo, depuis Kisangani.
Oui.
Évidemment, aujourd'hui, les finances semblent être régressées dans le domaine du commerce. Les commerçants se trouvent en difficulté de réaliser ses activités. Je pense que l'état des routes serait à la base, car nous constatons dans la plupart des routes, de l'abrément en état non fonctionnel. L'économie est en baisse du fait que il n'y a plus assez de commerçants qui importent et exportent les produits. Alors, autre chose, la tracasserie des agents de l'État qui sont installés dans les douanes ne facilite pas les commerçants à exercer librement.
Daniel, s'il vous plaît, on aimerait que vous restiez dans le sujet de parler de la Covid-19 qui a eu un impact réel sur le secteur de l'économie en RDC. Il y a des institutions telles que le Fonds de promotion pour l'inclusion financière qui accorde de crédits aux microfinances, aux coopératives, de manière à les aider à donner de crédits aux individus qui sont dans le petit commerce. Mais compte tenu de la Covid-19, ce secteur a connu beaucoup de difficultés. Et là, maintenant, nous avons avec nous dans ce studio le directeur général de FPM, Fonds de promotion pour l'inclusion financière en RDC, qui essaie d'expliquer comment cette institution s'est adaptée à la situation. Est-ce que vous avez des questions à poser justement pour ce qui est de la Covid-19 et de son impact négatif sur le secteur de l'économie, le secteur des finances en RDC? C'est ça le sujet.
Oui, moi alors, dans ce cas-là, puisque j'ai aussi une question,
oui.
J'aimerais demander à l'invité,
oui.
de nous faire voir, parce que depuis le début du COVID, de la Covid-19, nous avons toujours constaté la régression. Puisque en regardant même chez nous, Kisangani, les choses ne marchent pas bien totalement. Même les commerçants et les entreprises se trouvent en difficulté vu Covid-19. Je me demande, comment peut faire alors les entreprises pour promouvoir leur secteur afin de d'acquêter les moyens, acquêter les moyens pour leur permettre à reprendre leurs activités. Merci.
Merci Daniel d'avoir appelé de Kisangani. Tamboué, vous êtes à Béni. Bonjour Tamboué. Tamboué, vous êtes à Béni. Je pense que vous êtes en ligne, Tamboué. Bonjour. Tamboué n'est plus en ligne. On va aller à Mbandaka pour retrouver Gilbert. Gilbert, vous êtes à Mbandaka. J'espère que vous êtes en ligne. Bonjour, Gilbert. Apparemment, Gilbert n'est pas en ligne. On pourra le retrouver plus tard. On me dit qu'il a plutôt un autre auditeur qui est en ligne. Kashaka, vous êtes en ligne?
Oui, c'est Maître Mashaka à partir de Lubumbashi.
Ah, ravi de nous rejoindre dans ce magazine Okapi Service. Maître Mashaka, on parle de comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19. Votre question, votre préoccupation, Maître?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Bonjour d'abord et bonjour à l'invité. Vous savez, la situation est un peu difficile et critique, tout le monde l'a laissé. Ma préoccupation est la suivante auprès de notre invité, puisque nous avons la FPI ici chez nous. Et je crois que doit faire la FPI pendant cette période ici pour aider à nos PME à se relever. Et deuxièmement, aujourd'hui, vous savez, c'est tout le monde, tous les opérateurs économiques qui pleurent, qui subissent les conséquences de COVID. Comment et quels mécanismes notre gouvernement peut prendre pour que les opérateurs économiques ne soient pas pénalisés et pour que aussi l'État congolais ne soit pas pénalisé? Voilà au moins mes deux préoccupations que j'avais, Monsieur Joly.
Alors, Maître Mashaka, là, vous parlez de fonds de promotion de l'ONDC en RDC, mais nous avons ici les directeurs généraux de fonds pour l'inclusion financière en RDC. Il s'agit aussi d'une institution qui essaie d'aider les coopératives, qui essaie d'aider le petit et moyen d'entreprise à travers de financement pour les aider à bien fonctionner. Mais à cause de la Covid-19, toutes ces institutions ont de problèmes. Voilà pourquoi il est en train d'expliquer comment au niveau de leur institution, ils ont essayé de s'adapter vis-à-vis de la situation. Donc si vous avez des questions à poser, il faut poser par rapport au FPM et pas par rapport au fonds de promotion pour l'industrie.
Ça va. Oui, je reviens aussi à lui compte tenu de leur institution. Puisque vous savez, aujourd'hui, mais c'est jeudi, la première position, c'est la vente. Oui. Qu'est-ce que nous constatons? Les coopératives agricoles, monsieur Jody, sont abandonnées à leur triste sort. Puisque je me rappelle à l'époque, presque dans chaque territoire, il y avait une coopérative agricole dont on encadrait les cultivateurs et en appui agricole et en conseil et ainsi de suite. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu ou bien préconiser dans leur institution pour essayer de relever ces coopératives-là qui aident la population locale, puisque lorsqu'on produit dans des circonscriptions territoriales, c'est à ce moment-là que c'est ces histoires-là qui ravitaillaient les grands centres. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir je sais qu'ils ont des difficultés, puisqu'on ne peut pas continuer à résister dans les difficultés. Il faut prendre des mesures, des précautions, comment s'en sortir de cette difficulté. Maintenant, je me pose la question à notre invité, quelles dispositions qu'ils ont prises à l'avenir pour relever ces coopératives-là qui étaient utiles pour la population et locale et urbaine, monsieur Jody.
Merci, Maître Mashaka. C'est plutôt Marcel Ngombombala qui est à l'antenne. Merci d'avoir intervenu. Alors, on fait signe que Tamboué est de nouveau en ligne. Tamboué, vous êtes à Béni, vous êtes de nouveau en ligne. Bonjour Tamboué.
Bonjour monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute. Que vous avez comme question à nous poser sur le sujet de ce jour, comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19?
Bon, je n'ai pas de questions à poser, mais j'avais un peu des suggestions à donner à notre État congolais. Partant de cela, nous avons vu que donc les finances a une régression en République démocratique du Congo. C'est la suite au Covid-19, mais aussi aux différents groupes armés qui se trouvent partout dans les pays et plus particulièrement au niveau de l'Est. Maintenant, partant de cela, je vais parler d'abord de l'Est. Pour qu'on puisse relancer encore les finances, premièrement, il faut d'abord en finir avec les guerres qui se passent en l'Est, en finir aussi avec la Covid-19, mais aussi enlever les taxes supplémentaires, mais aussi les taxes illicites qui sont instaurées par les agents de l'État. Quatrièmement, parce que on ne peut pas payer les taxes là où il y a des guerres et donc la situation n'est pas du tout normale. Mais aussi, l'État doit solliciter des emprunts auprès des banques internationales pour relancer les finances à République démocratique du Congo. Voici ma petite contribution par rapport au thème du jour. Merci et bonjour.
Merci Tamboué. Depuis Béni, bonne journée également à vous à Béni. DJ Carlos Kalambay, vous avez suivi les différents intervenants. Si on doit plutôt s'apesantir sur... Maître Machaka qui a parlé de coopérative, hein, parce que il y a certaines questions, c'est bon de les aborder, mais ça vous concerne pas directement parce que ouais. Vous êtes dans un secteur très précis de financement et notamment là les coopératives qui sont concernées parmi les institutions que vous financez. Alors comment ça se passe avec les coopératives?
Oui, mais je vais quand même essayer de brosser. Hein. Je veux brosser quand même un bon nombre de questions. Je pense que tout ce qui est petite et moyenne entreprise nous intéresse parce que c'est notre clientèle cible. À la fin, c'est comment les solidifier parce que c'est pratiquement le socle hein, du développement. Dans la mission, dans ce que nous faisons, partant de Monsieur Daniel, j'ai commencé par expliquer la baisse du produit intérieur brut, pratiquement où il y a eu une faible croissance de 0,8. Ça indique tout justement que la crise, elle est générale, c'est-à-dire que au niveau sur le plan macroéconomique et qui affecte les plus petits. Ce qui fait que aujourd'hui, ce sont des mesures d'accompagnement, premièrement, qui sont initiées pour pouvoir maintenir certaines activités en fait hein, commerciales qui vont permettre tout justement par ricochet de maintenir le niveau de revenus des micro petites et moyennes entreprises. Parlons des coopératives agricoles, nous ne finançons pas directement les coopératives agricoles, mais ils font partie tout justement de ces entités qui sont appuyées par les institutions financières. L'agriculture reste très prioritaire, mais malheureusement, il faut le dire, n'a pas encore décollé. Dans le secteur financier en général, il n'y a que 2% des crédits à l'économie qui sont affectés à l'agriculture.
Oui.
Je suis d'avis qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce plan. Des initiatives sont en cours. Surtout en ce moment de crise, l'idéal est celui de booster le secteur agricole parce que on n'aura pas toujours nos frontières ouvertes, on ne va pas toujours dépendre des importations des produits de première nécessité et qu'à la fin, il faut produire localement. Et la production locale passe par le secteur agricole qui reste encore très fragile. Mais nous sommes au niveau du FPM en train de réfléchir là-dessus, comment pouvoir accompagner. Nos collègues de l'assistance technique, ils ont déjà commencé, c'est-à-dire développer des outils. Je reviens, tout part du secteur financier. Parce que même pour que l'État puisse dispatcher le financement, c'est via les banques, les IMF et les COPEC. Mais eux-mêmes doivent être outillés. Et ce que nous faisons, c'est nous donnons les outils et l'accompagnement nécessaire. Donc, il y a des études qui ont été faites, il y a des projets qui sont en test. Certaines institutions financières sont suffisamment avancées. Et très souvent, je recommande à nos auditeurs qui sont dans le secteur agricole de savoir quelles sont les institutions auprès desquelles ils peuvent s'adresser et qui répondent à leurs besoins. Parce que c'est pas toute institution financière qui peut appuyer des secteurs spécifiques. Donc là, il y en a déjà. C'est un point. Alors, revenir à la crise sanitaire et au secteur agricole de façon générale et aux PME, nous parlons des mécanismes de partage de risques qui doivent être mis en place aujourd'hui. Ce sont des fonds de garantie. Ça, c'est en gestation. J'étais très content de voir qu'au niveau du gouvernement, il y a quand même eu l'initiative de mettre en place un fonds, le FOGEC, le Fonds de gestion garantie du gouvernement, appuyé par le secteur privé. Ça, c'est un élément positif. Mais nous avons aussi certains partenaires comme la coopération allemande, la KfW, qui est en train de réfléchir sur la mise en place d'un fonds de garantie.
Oui.
Parce que le fonds de garantie va atténuer le niveau de risque et permettre aux institutions d'octroyer des prêts. La seule façon aujourd'hui pour les PME de se relever de la crise, je le diviserai en deux. Premier axe, ça c'est un conseil, c'est la flexibilité et la souplesse. Vous êtes dans quel secteur? Est-ce que ce secteur est touché? Mais par rapport à la crise, quelles sont les opportunités d'orientation? Votre service, votre activité est orienté, je prends l'exemple, vers l'aviation. Mais quand les frontières sont fermées, vous ne croisez pas vos bras. Vous vous dites, quelles sont les autres opportunités d'adaptation de l'activité? Ça, c'est un élément important. En s'adaptant, on essaye de maintenir son capital. Évidemment, pour sortir complètement, on a besoin du financement. Et c'est là qu'il y a la nécessité de construire une relation solide avec les institutions financières. Parce que je suppose que pendant cette période de crise, les institutions financières appuient directement ceux qui étaient déjà partenaires pendant le beau temps, qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Mais notre souci, c'est d'élargir ce champ en apportant, d'une part, si possible bientôt, un fonds. C'est un fonds d'urgence avec nos partenaires qui pourrait être mis en place pour faciliter ce refinancement et puis d'autre part mettre en place ces mécanismes de partage de risques. Cela reste très insignifiant, mais il faut commencer quelque part avec cet appui parce que ça reste un problème réel qui doit être adressé, non pas de façon sectaire, mais sur le plan macroéconomique, politique et sociale.
Mais quand vous parlez de l'inclusion financière, c'est les soucis, c'est d'arriver à donner, en tout cas, la possibilité à une large majorité de la population d'accéder à des services financiers. Oui. Mais là, les fonds, vous ne travaillez qu'avec des institutions telles que de microfinance et vous ne pensez pas, avec le temps, essayer de voir comment aussi travailler autrement, c'est-à-dire directement avec des individus qui sont dans certains secteurs.
Oui, c'est une bonne idée, oui. Mais je crois que on dit à chacun son métier.
Oui.
Je pense que les institutions financières aujourd'hui sont mieux placées. Ils ont l'expertise et les outils nécessaires. Ils ont des agences pratiquement dans plusieurs provinces. Et quand vous touchez à une institution financière, automatiquement vous touchez plusieurs parties du pays. Plutôt que d'être une institution et qui commence à aller partout, je pense que le temps de déploiement. Pour nous, passer par les institutions financières pour toucher les PME a plus d'impact sur le plan social parce que nous avons cette clientèle cible que nous voulons accompagner que d'aller directement vers les PME. On est quand même un pays de 80 millions d'habitants, oui. 2,3 millions de kilomètres carrés. Avec 26 provinces, oui. Je pense qu'on peut utiliser l'infrastructure financière déjà en place et voir comment canaliser les appuis vers les PME.
D'accord, ça c'est donc pour l'instant, en tout cas, votre réseau social reste celle-là, de travailler avec les institutions de microfinance afin que ces institutions puissent accorder des crédits parce qu'il y a des associations qui se plaignent généralement, il y a des associations qui sont dans les secteurs de la boulangerie, dans les secteurs alimentaires, mais qui se plaignent souvent de ne pas bénéficier de crédits pour les aider à fructifier leur travail. Mais généralement, quand vous êtes quand vous travaillez les microfinances, et vous essayez de voir dans quel secteur ces microfinances travaillent avant de les appuyer.
Évidemment. Oui. Alors je préciserai, on ne travaille pas qu'avec les institutions de microfinance, mais même les banques.
Même les banques, d'accord.
Ouais. Oui. C'est-à-dire que même dans les banques, on a quand même les particuliers, les retail, eux aussi accompagnent les petites et moyennes entreprises, en fait. Ça, c'est une thématique qui reste très vaste. Et je me demande si on peut terminer en ce laps de temps. On reviendra pour parler de l'accès au financement. Oui. Ça, c'est autre chose. Alors, peut-être c'est mieux de dissocier les problèmes structurels que nous avons par rapport à l'accès au financement de cette situation de crise. Parce que si vous mélangez les deux, la solution devient très complexe. D'abord, est-ce qu'on veut maintenir le gap de 2019 à 2021 ou revenir au niveau de 2019? Parce que c'est d'abord ça. C'est complexe de suivre deux lèvres à la fois, mais notre souhait d'abord c'est de remonter et arriver
maîtriser d'abord la situation
sanitaire.
La COVID, tout à fait.
Oui, la Covid, oui. Je crois il y a monsieur Tamboué qui a dit qu'il faut terminer avec la Covid. Par contre, je pense qu'on doit la considérer comme étant une donnée et travailler en fonction de ça et maintenir notre niveau de croissance. parce que ça reste une catastrophe mondiale. On voit que ça va nous prendre encore plusieurs mois, qui le sait, plusieurs années. Donc, nous comment travailler dans ce contexte et remonter? Alors, la problématique de l'accès au financement, certes, il y a des secteurs qui restent très peu servis, je suis d'avis. La production,
oui.
Une bonne partie de certains services, mais aujourd'hui, on va plus loin. La numérisation, la digitalisation. Bon, il faut reconnaître que notre secteur financier ne suit pas directement ce développement rapide par rapport à la numérisation et la digitalisation, mais il y a des avancées qui sont faites. Par rapport à la production, je crois qu'il y a plusieurs secteurs qui peuvent bénéficier du financement si nous arrivons à résoudre les problèmes de mécanismes de partage de risques. Pourquoi ? Parce que c'est très risqué. Bon, c'est très facile aujourd'hui pour une institution financière de venir voir, voilà, j'ai 2-3 locataires, ils me payent autant, de dire, ok, en fonction de ça, je prends l'hypothèque, je te fais un crédit et tu rembourses sur base du loyer. Le calcul est vite fait. Mais quand vous venez dire, voilà, j'ai besoin d'acheter des machines parce que je veux avoir des fours pour faire, ça reste très abstrait et souvent ça nécessite certaines garanties solides,
oui,
que vous n'avez pas nécessairement. Et là, c'est là que nous appelons le mécanisme de partage de risque.
Et vous avez beaucoup insisté sur ce mécanisme de partage de risque. Et c'est en tout cas, pour ce qui est de la conjoncture actuelle, c'est les passages obligés. Hein. Autrement, d'après vous, c'est difficile de s'en sortir.
Absolument.
Oui, parce que vous n'arrêtez pas de revenir sur le mécanisme de partage de risque.
Absolument, absolument. Oui. Là, c'est aussi une invitation aux acteurs économiques, mais pourquoi pas politique aussi, que oui, ce problème d'accès au financement ne peut être résolu dans cette situation de crise que si nous pensons réellement à un mécanisme de partage de risque. Parce qu'on parle de financement, on parle du secteur bancaire qui lui-même, d'une manière ou d'une autre, souffre des effets de la crise et ne va pas continuer déjà vivant, octroyant des prêts dans un environnement supposé risqué. On va continuer à pouvoir prendre beaucoup plus de risques qu'il n'en faut. Et c'est là qu'il faut l'intervention des autres acteurs pour dire qu'on peut partager le risque pour atténuer les effets de la crise, mais encourager le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Ça reste un élément important dans la situation de crise que je dissocie de l'accès au financement, qui a toujours été un problème.
Voilà, on va découvrir ensemble cette réaction de Mina Mwanda qui nous a écrit sur la page Facebook Happy Service. Il nous écrit ceci: l'exonération et l'allègement fiscal peut d'une manière ou d'une autre faciliter la finance des PME en cette période pandémique, tout en sachant que les principales et uniques activités en ces moments restent, sans ignorer celle de PME, qu'une fois étouffée par des impositions et taxes, jouera négativement à l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est un bon point,
oui,
qui pour moi reste très complexe. Je ne sais pas d'emblée répondre, mais il faut voir. Ce que je sais des études, c'est que 60 à 80% des PME sont dans le secteur informel. Or, qui dit informel, dit généralement évasion fiscale, parce qu'on n'est pas reconnu. Quelle est cette quotité? Je sais qu'il y a des grosses structures, des grandes PME qui payent effectivement leurs taxes. Ça peut être une résolution du problème, mais qui doit être très bien réfléchi sur les mesures d'accompagnement sur le plan du secteur financier lui-même, mais aussi par rapport aux PME, parce qu'il faut les recenser, il faut les connaître, il faut qu'ils se formalisent, il faut qu'on sache quel est le revenu, quel sera l'impact in fine. Et sinon, on exonère, mais on ne voit pas de changement, parce que cela représente une infime partie. Mais ça peut être, dans la réflexion globale, une partie de la solution.
Comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19? Nous en parlons dans ce numéro du magazine Okapi Service avec Carlos Calambay, directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, FPMSA en sigle. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans bienvenue à Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien, où nous parlons aujourd'hui justement de l'accès aux services financiers en cette période difficile de Covid-19. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas pas, composez les 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Alors, Monsieur Digi Carlos, si on doit faire un peu une espèce de bilan, parce que c'est vrai, avant la Covid-19, votre institution a essayé d'appuyer, certaines institutions de microfinance ici en RDC, même les banques. Est-ce que vous, avant cette période de Covid-19, le bilan, d'après vous, a été largement positif, ou bien il y avait aussi quand même des problèmes, malgré qu'il n'y avait pas de pandémie de Covid-19?
Non, jusque-là, je pense que c'est positif par rapport à notre mission d'accompagnement du secteur.
Oui.
Parce que l'année 2020, en dépit de la crise, nous avons quand même continué à accompagner les institutions financières, où aujourd'hui nous avons carrément injecté près de 30 millions de dollars. Et particulièrement durant l'année 2020, nous parlerons de près de 8 millions qui ont continué à être injectés pour l'accompagnement. Et cette année, nous en ferons davantage parce que si tout va bien avec les échanges avec les différents partenaires, nous pouvons rajouter 15 millions d'euros de plus à injecter au profit des micro, petites et moyennes entreprises, et tout en souhaitant que d'ici fin d'année, qu'il y ait au moins quelques mécanismes de partage de risques, fonds de garantie, et qu'aujourd'hui, on a des assureurs qui vont y intervenir pour booster davantage le financement des micro, petites et moyennes entreprises.
Et en cette période, j'imagine que les critères de sélection sont très rigoureux. Pour éviter, ils sont très rigoureux. Est-ce qu'il y a en dehors de fonds de garantie, de mécanismes de partage de risques, il y a également d'autres particularités qui nécessairement pour vous sont très capitales avant d'appuyer tout ce qu'il y a comme microfinance aux banques.
Oui, par rapport aux institutions financières, je pense, nous, par contre, nous avons allégé, comme je l'ai dit. On a intégré les aspects de la crise nos critères de sélection, ce qui va encore plus loin au niveau des PME aussi. Je pense qu'on reste très regardant d'abord sur ceux qui sont effectivement touchés par la crise. Parce que les responsabilités sont partagées. Je pense qu'on ne peut pas toujours pointer du doigt le financement, mais au niveau aussi des entrepreneurs eux-mêmes, le sérieux, parce que on voit la situation d'avant et d'après. Il faut aussi reconnaître que d'avant la crise, il y en a beaucoup qui ont été de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils prennent des crédits, qu'ils ne remboursent pas. On se dit un crédit, c'est un don. On préfère faire autre chose plutôt que de respecter l'engagement. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est-à-dire ceux qui étaient en règle avec les institutions financières, mais qui sont entrés en difficulté suite à la crise. Là, l'appui est automatique dans ce que nous projectons faire dans le futur, c'est-à-dire voir comment appuyer ces personnes. Donc, c'est un peu dissocié les discussions. Les responsabilités restent un peu partagées aussi dans l'initiative, dans l'entrepreneuriat, dans la volonté de mieux faire, de présenter un projet bancable. Parce qu'il ne suffit pas de venir auprès d'un banquier pour dire « j'ai besoin de 10 000 et qu'il te donne ». Il faut commencer soi-même. Comme je dis, on pourra en discuter plus tard par rapport à l'accès au financement.
Ah, vous avez évoqué un problème aussi très crucial, c'est par rapport au financement et surtout au non-respect du remboursement. J'aimerais savoir comment ça se fait au niveau du fonds de pour l'inclusion financière en RDC. Lorsque vous avez une microfinance, une institution qui a pu bénéficier de votre financement, de votre appui et qui a du mal à rembourser pour des raisons évidentes, peut-être pour mauvaise foi, ça se passe comment?
Bon, ce sont des cas très rares.
Ah, là, c'est bien.
Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'améliorations de la Banque centrale par rapport à l'assainissement du secteur.
Oui.
Jusque-là, c'est-à-dire que pour qu'on n'obtienne pas un remboursement, il faut que l'institution tombe en faillite.
Oui.
Et à ce que je sache, les deux dernières années, ça n'a pas été le cas, en tout cas, sur ce plan. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le suivi des institutions financières, de façon générale. Et durant cette période de crise, il y a quand même la Banque centrale qui a pris certaines mesures d'allègement pour permettre aux banques de pouvoir légèrement absorber le choc et le risque, je dirais. Mais d'autre part, il faut aussi souligner que au niveau de la qualité des PME de remboursement, je crois qu'il y a des analyses approfondies qui sont faites au niveau des institutions financières, parce qu'il ne faut pas que ça soit une sorte de léthargie pour dire il y a la crise, on ne rembourse pas. Il y a la différence entre cette bonne volonté de remboursement, okay, et l'incapacité financière, et la capacité financière et la mauvaise volonté.
Et la mauvaise volonté. Par exemple, pour le cas de la Covid-19, on sait comprendre. On sait comprendre que la Covid-19 qui est là et puis qui a un impact négatif. Ça, au niveau des bailleurs, on sait comprendre ça.
Oui, évidemment, on sait comprendre, et je pense que ça sera une sélection par rapport à chaque PME au niveau des institutions financières pour voir lesquelles ont réellement été touchées par la Covid-19.
Alors, s'il y a là maintenant des institutions ou des responsables d'institutions de microfinance ou des banques qui sont en train de nous s'ouvrir maintenant, peut-être à travers les pays, qui sont intéressés par ce que vous faites, c'est-à-dire qui sont vraiment dans une situation difficile due à la Covid-19, est-ce que vous avez un message à lancer à toutes ces personnes?
Bon, je pense que on est très disposé à accompagner le secteur et que nous sommes en tout cas en contact avec la plupart. Vous savez, le secteur financier congolais n'est pas très très large, hein, à peine 18 ou 17 banques, et puis les institutions de microfinance, on en a pratiquement 20, et puis près de 80 coopératives d'épargne et de crédit, dont plus de 50% sont des très petites tailles. Donc, on est plus ou moins en contact, mais nos portes, en tout cas, sont ouvertes pour un accompagnement, soit en assistance technique, soit en appui financier. Et aussi, nous recevons beaucoup d'appui de nos bailleurs. Comme vous le savez, le FMSA est une société financière. Les actionnaires sont la KfW, qui est la banque de développement belge. On a Bio, qui est la banque de développement allemande, la KfW. On a Bio, la banque de développement belge. Et on a Cordaid, Caritas Pays-Bas et Incofin Siviso, qui est une coopérative belge aussi, avec près de 35 millions aujourd'hui, qui ont été mis pour être canalisés au profit des micro, petites et moyennes entreprises. Là aussi, je pense que tout appui qui viendrait, surtout dans l'accompagnement dans les mécanismes de risque et d'appui des capitaux à risque, je pense que ça pourra pas seulement booster, mais soulager les peines actuelles des micro, petites et moyennes entreprises.
Donc on retient qu'en dépit de cette crise financière causée par la Covid-19, en RDC, comme c'est le cas à travers le monde, en tout cas le fonds pour l'inclusion financière en RDC continue à faire son travail.
Oui. Nous continuons à travailler et nous travaillerons toujours pour l'intérêt de ce pays et de la population congolaise.
Monsieur Carlos Kalambay, nous vous disons merci. Nous rappelons que vous êtes directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, FPMSA en sigle. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder ces questions sur comment faciliter les services financiers aux PME en cette période de Covid-19. Nous espérons vous retrouver prochainement.
Merci Marcel pour cette invitation.
Electricité, I love na bise boti complicité. Basumbam tabo bakota vazala électrifié. Quand tu prends la coma canette pétrifié. Na yon na viva ta sensualité comme jamais. Bene na yon na zala ka vraiment. Sécurité, bébé. Zoto, motima, nyonso yanga repona yo. Malaika, ka, ka.
jamais nos bonnes malilles hiver. Parce que je suis bien couvert. C'est prendre la tête, mais c'est dans ça que je reconnais ma tête. Allez, l'illusion, faudra vous taire. C'est pas pour rien que je l'appelle mon cœur. C'est ma sauce, mon âme sœur, mon idéal. Ou bien que pimenté, sucré ou salé. Moi je la mets comme ça, 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 ça. Moi je la mets comme ça, toi tu l'aimes comme moi.